La réponse de Jésus à la question des pharisiens, frères et sœurs, est une réponse qui est célèbre. Elle est tellement lapidaire que ce n'est pas difficile de la retenir. À César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. C'est clair, c'est limpide. On pourrait dire qu'il y a deux camps. Et on a réglé le problème. Ce n'est peut-être pas aussi simple. Comme souvent d'ailleurs. Souvent d'ailleurs, enfin oui, parce que cette réponse, elle est rapide comme ça, elle vient comme une sentence, on peut la comprendre de travers, lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, et donc il faut essayer de comprendre déjà à qui Jésus parle. On entend les pharisiens, mais Jésus ne parle pas qu'aux pharisiens, car les pharisiens se sont alliés aux partisans d'Hérode. Ce qui est assez exceptionnel. Ce dont il s'agit, c'est que la Palestine, à l'époque, la terre d'Israël, est sous le joug des Romains. Et donc la vraie question, c'est le lien qu'il faut avoir avec l'occupant romain. Et l'impôt dont il est question, c'est l'impôt à César, c'est pas l'impôt pour le temple. Et donc c'est l'impôt réclamé par l'occupant romain. Or, dans ce contexte-là, il y a les pharisiens qui, eux, se veulent stricts observateurs de la loi, et donc pas de compromission avec l'occupant romain, païen. Et puis, il y a les disciples d'Hérode, les partisans d'Hérode, Hérode étant le roi qui a été mis en place par le pouvoir romain, justement, et qui, lui, s'accommode très bien de la présence des Romains, parce que son pouvoir tient à cela. Et donc déjà, les pharisiens et les disciples d'Hérode, les partisans d'Hérode, sont normalement opposés. Et voilà qu'aujourd'hui, ils viennent ensemble trouver le Christ. C'est déjà un indice de quelque chose qui n'est pas net. Et alors la question qui est posée à Jésus, c'est « Devons-nous payer l'impôt ?» L'impôt aux païens. Et quand Jésus va répondre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il ne va pas juste dire « je vous donne une solution toute faite », mais il va remettre les choses dans l'ordre. C'est un peu le problème d'ailleurs, c'est que souvent nous ne savons pas trop comment faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre spirituel, les exigences de notre vie spirituelle, les exigences de notre foi, la cohérence avec notre foi, et puis ce qui est de l'ordre de la société, surtout aujourd'hui. Les questions de société, comment les affronter, comment les résoudre, comment les s'en accommoder parfois. Et nous sentons bien qu'il y a une opposition, il y a une résistance entre les deux. Alors on peut décider, ben, mettons un mur entre les deux domaines, et comme ça, c'est réglé. Voilà, bien sûr, Jésus n'invite pas à cela. Ce qu'il fait, c'est qu'il remet les choses dans une perspective de hiérarchie, l'organisation de la société, la vie terrestre, la vie des hommes, la politique au sens noble du terme, hein, pas la politique partisane, mais la politique en sens de l'organisation de la cité, elle n'est pas étrangère à la présence de Dieu. Elle n'est pas étrangère à celui qui est notre Créateur. Et puis, quand Jésus dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il dit quelque chose qui semble être un peu révolutionnaire. Ne l'entendons pas dans notre contexte à nous. Ne faisons pas d'anachronisme. On n'est pas à l'époque de Jésus en laïcité, hein, en régime de laïcité. Le pouvoir civil de l'Antiquité est un pouvoir vaste, quel que soit d'ailleurs l'empereur, qu'il s'appelle César, qu'il s'appelle Pharaon, qu'il s'appelle Cyrus. Le pouvoir est vaste parce que dans l'Antiquité, celui qui est l'empereur, le roi. Il se présente souvent comme étant revêtu de quelque chose de divin, une mission divine. Et c'est justement à ce titre-là que bien des chrétiens mourront, martyrs, refusant de rendre un culte à César. Et donc quand Jésus dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, en fait, c'est révolutionnaire parce qu'il en appelle à la conscience de chaque homme devant peut-être un pouvoir qui voudrait prendre la main sur les consciences. La première lecture, ce petit passage du livre d'Isaïe, de la fin du livre d'Isaïe, nous présente un autre empereur, le roi Cyrus, païen lui aussi, roi perse, qui, à l'époque de l'exil, alors que Israël a été déporté, que le peuple d'Israël a été déporté, que Jérusalem a été vandalisée, pillée, ruinée, rasée par les Babyloniens, Cyrus remporte victoire sur victoire et va être celui qui va permettre le retour du peuple de Dieu dans sa terre. Mais Cyrus est un roi païen. Or, Isaïe nous le présente comme celui qui est l'instrument de Dieu. Et voilà. Ce roi païen, sans le savoir, va permettre que Dieu réalise sa volonté sur son peuple. C'est bien la preuve que, quel qu'il soit, l'empereur, le roi, quel que soit celui qui est revêtu de pouvoir dans l'humanité, il est de toute façon toujours soumis à un pouvoir plus grand, même sans le savoir. Il est toujours soumis à Dieu. Ne l'oublions pas. Alors ensuite vient une question qui est un peu, on va dire, un peu théologique quand même. Ça, c'est le côté un peu social, etc., mais humain. Mais un peu théologique, parce que la question, c'est de savoir comment on vit sa foi. Et alors les pharisiens et les hérodiens, qui s'entendent bien aujourd'hui pour piéger Jésus, donc portent cette question. Allons-nous payer l'impôt? La réponse de Jésus, c'est « Montrez-moi une pièce ». Alors l'évangile ne nous dit pas, peut-être Matthieu, ancien publicain, percepteur d'impôts, se fait discret à ce moment-là, il ne nous dit pas d'où vient la pièce. Mais enfin, à la lecture de l'évangile, on comprend bien qu'on n'a pas mis 2 heures à trouver une pièce. Hein. Et donc, il a suffi de fouiller les poches ou les bourses et de sortir la pièce frappée à l'effigie de l'empereur. Était-elle dans la poche des Hérodiens? Probablement. Probablement aussi que les pharisiens en avaient quelques-unes dans leur poche. Eux qui s'enorgueillissent de ne pas payer l'impôt. Et Jésus dit, hypocrite, vous prétendez avec des beaux discours agir comme ci, agir comme ça, vous tenir dans une forme de pureté, etc., vous êtes des hypocrites. Parce qu'en fait, vous savez magouiller avec le monde. Vous savez faire fi de la cohérence dans votre vie. Vous savez vous accommoder. Et donc on sent bien qu'on ne veut pas payer l'impôt parce qu'on ne veut pas donner l'impression qu'on collabore avec l'occupant. Mais enfin, pour ce qui est du commerce, on n'a pas de mal à mettre en œuvre les lois du monde. Et les lois du moment surtout. Voilà. Et Jésus dénonce cela. C'est la première chose que Jésus dénonce d'ailleurs. Avant même de donner une réponse sur la question l'impôt, pas l'impôt, c'est le comportement. L'incohérence du comportement. Et Jésus appelle à une vie de foi. Et c'est pour ça qu'on est un peu choqués. En tout cas, les pharisiens sont un peu heurtés par la réponse de Jésus. Parce que Jésus leur dit, il ne sert à rien de faire des grands discours et de prétendre encore une fois être les défenseurs de la loi, mettez-la en œuvre. Vivez-la, cette loi. Vivez, alors on dirait aujourd'hui, vivez comme des chrétiens au cœur d'un monde qui ne l'est pas. Voilà, c'est la journée des missions. Est-ce que l'esprit missionnaire ne commence pas par ça, justement? De vivre notre foi au cœur d'une société, d'un monde qui ne sait plus qui est Dieu. Est-ce que la mission ne commence pas par le fait de témoigner par la cohérence de notre vie? Et puis, allons plus loin. Et donc Jésus dit, qu'y a-t-il sur cette pièce? Quelle effigie? Quelle inscription? Alors on répond, c'est la tête de César sur la pièce. Alors à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Tout ça, c'est simple. Ça lui appartient, c'est lui qui a frappé la monnaie, rendez-lui. Vous l'utilisez, il vous la prête. Voilà. Et à Dieu? À Dieu, ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qui est à Dieu? On n'est plus dans l'ordre de l'argent. On est dans un ordre beaucoup plus grand. La question, qui est-ce qui est à l'effigie de Dieu? Qu'est-ce qui est à l'image de Dieu? Ben voilà, nous, les pères de l'Église, commentant cet évangile, disent les pièces, elles ont l'effigie de César, mais chacun d'entre nous, en fait, nous portons l'effigie de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et donc, rendons à Dieu ce qui est à Dieu, rendons-lui notre vie. Soyons à lui. Et ça appelle effectivement à une grande cohérence. Ce qui fait que nous agissons au jour le jour, ce qui fait que nous vivons en société, c'est parce que justement nous vivons devant Dieu. C'est ça qui donne du sens à nos actions. C'est ça qui les rend cohérentes. C'est de ne jamais perdre de vue que, quel que soit l'instant de la journée, nous agissons pour Dieu. Nous vivons pour lui. Nous lui appartenons. Rendons-lui notre vie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un impôt, il ne s'agit pas d'une petite partie de ceci ou de cela. Dieu est un Dieu jaloux. C'est toute notre vie que Dieu veut. C'est que notre cœur tout entier soit à lui. J'ai en mémoire une citation d'un soldat, d'un officier français, qui, mort au combat, disait... milieu du XXe siècle, mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, l'honneur à moi. Mon âme à Dieu. Voilà. La réponse, en fait, à la question, elle est là. Que je sois tout entier pour Dieu et que tout le reste découle de cela. Demandons au Seigneur de nous faire entrer dans cette cohérence de vie. Ne comprenons pas ce que Jésus nous dit aujourd'hui comme juste une petite frontière qu'on va placer dans notre manière de vivre en disant ça c'est pour l'État, ça c'est pour la vie en société, là on est pour Dieu. Non, soyons un en nous-mêmes et donc cohérents et vivons pour Dieu et que tout le reste découle de là. J'ai presque envie de dire en fait, dans cette journée de la mission, vivons avec cette vocation à la transcendance. Nous sommes appelés à bien plus grand que juste la vie sur la terre. Et si nous vivons pour Dieu, encore une fois, alors la vie sur la terre est ce chemin qui nous conduit à Dieu. Et proclamons, frères et sœurs, autour de nous, cette transcendance qui est la nôtre, qui nous est rappelée par cette image de Dieu que tout homme porte en lui, créée à l'image de Dieu. Probablement que nos sociétés aujourd'hui, notre monde moderne, meurent d'avoir perdu de vue cette dimension transcendante de l'être humain, de la personne. Amen.